Bonjour et bienvenue sur Doula Lire, le podcast qui informe par une doula qui écoute. Le savoir, c'est le pouvoir. Mais tout le monde n'aime pas lire, tout le monde n'a pas le temps de lire. En revanche, un podcast, ça s'écoute facilement. Vous pourrez donc retrouver ici, très simplement, le meilleur de chaque ouvrage en périnatalité qui me passera entre les mains. Libre à vous ensuite d'aller creuser plus dans l'ouvrage originel. Bienvenue dans ma bibliothèque en périnatalité. Bienvenue sur Doula Lire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette semaine, j'ai lu pour vous un livre qui sort aujourd'hui. Enfanter en conscience, la dimension initiatique de l'accouchement, de Aurélie Paino aux éditions Mama Édition. Aurélie Paino, elle est réalisatrice, comédienne et praticienne chamanique. Et il s'agit donc de son premier livre, donc elle est aussi maintenant auteure. La première partie raconte donc son histoire, et notamment, ça a commencé 2 ans avant sa première grossesse par un très gros accident de la route, avec des fractures vraiment multiples, qui lui a permis vraiment de se remettre en question, d'évoluer, etc. Avant d'avoir une première, puis une deuxième grossesse très révélatrice, la deuxième grossesse s'est terminée par un accouchement à domicile parfait. Ces 2 enfants ont été allaités pendant 3 ans, voire plus, et à l'heure actuelle, ils sont toujours en IEF. Voilà pour sa vie. Au niveau du sommaire, on commence par le témoignage de son expérience de maternité qui prend la première partie. La deuxième partie, elle est consacrée à la naissance, ce rite de passage, donc pourquoi les femmes souffrent-elles, tout un modèle à changer, se connaître soi-même et les enjeux humanitaires. Et la partie 3, c'est les exercices pratiques, que nous ne verrons pas dans le podcast, parce que, très franchement, vous décrire des exercices pratiques à l'oral, c'est vraiment pas facile. Elle commence donc par rappeler que la préconception, la gestation et l'accouchement, ainsi que les 2 premières années de vie, sont vraiment déterminants pour la mère et l'enfant. Ça a vraiment joué sur plein de choses, notamment au niveau de l'intégrité physique, émotionnelle et mentale, des deux, de l'enfant et de la mère. Donc vraiment très intéressant. Et souvent, ça va aussi permettre de faire le ménage au niveau de l'héritage culturel qu'on veut transmettre à ses enfants pour les parents. Elle met en avant le mot « initiatique » et j'aime beaucoup sa définition. « Initiatique qui transforme ». Et effectivement, à ce titre-là, l'accouchement qui transforme une femme en mère, qui transforme un coparent, enfin toute personne qu'il soit avant en tout cas, en coparent, effectivement, la grossesse et l'accouchement sont donc des expériences initiatiques. Pour Jane Hardwick-Collings, la cyclicité du corps féminin, c'est ce qui prépare à l'accouchement depuis les ménarches. Du fait qu'on va avoir les règles tous les mois qui vont avoir donné des contractions de l'utérus pour éliminer l'endomètre tous les mois et que le corps va apprendre à les gérer, à gérer cette douleur, à trouver des positions antalgiques, etc. C'est grâce à ça qu'on arriverait à l'accouchement en connaissance de cause, avec des gros guillemets, et ça permettrait un accouchement plus facile, avec une gestion de la douleur plus facile, parce qu'on sait déjà gérer des douleurs de ce type. Pas aussi puissantes, mais de ce type. Elle parle également du fait que durant la grossesse, tout refait surface. Les blessures, les peurs, les poids du passé, etc. Et effectivement, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, du fait que toute leur enfance, elles vont la repasser au peigne fin, les nouvelles mères, pour identifier ce qu'elles veulent donner et pas donner. C'est ce qu'on disait, c'est faire le ménage dans l'héritage culturel, mais également le ménage dans ce qu'on veut être pour soi-même, pour son bébé, pour les autres aussi, etc. Ça remet pas mal de choses en question. Notamment au niveau de la société actuelle. De fait, il y a quand même beaucoup d'informations à gérer, donc là on est au niveau du néocortex, qui va être en train de réfléchir à tout ce qu'il faut changer ou pas changer, etc. Pendant l'accouchement, ce qui va être vraiment important, du coup, ça va être le boost d'hormones qui va permettre, durant l'accouchement, de libérer tout ça, de dire c'est bon, on stoppe les réflexions, c'est pas le moment, et de passer à ok, on y va, on lâche, il faut qu'ils sortent. Donc, je reviendrai pas là-dessus, mais ça, c'est toujours le même boost hormonal, il ne change pas avec l'ocytocine, les endorphines, la totale. Trop de mental n'étant pas bon pour l'accouchement, le boost d'hormones joue bien son boulot. Elle compare ainsi l'accouchement du coup à une transe, et j'aime beaucoup la logique, c'est que lors d'une transe, donc chamanique ou autre, hein, il y a un décuplement de la force physique et une diminution de la douleur. Et effectivement, une personne qui rentre vraiment dans sa bulle durant l'accouchement, avec les bonnes hormones, etc., qu'on laisse tranquille, bref, le vrai accouchement physiologique où tout va bien, où personne n'est là, En tout cas, personne n'interagit. La maman va vraiment avoir ce sentiment d'une force intense et d'une absence ou d'une diminution, en tout cas des douleurs, qui vont l'aider à mettre au monde plus facilement. Dans une transe, il y a aussi la perte de repères espace-temps. Et là, clairement, par contre, je ne sais pas si c'est effectivement le cas durant tous les accouchements physiologiques, etc. Hélène Goninet, dans son étude, confirme le fait que lors des AAD physio, donc vraiment un accouchement qui se passe au domicile de la personne et sans aucune interaction, donc où elle est vraiment accompagnée mais seule avec elle-même finalement, c'est 88% de ces personnes-là qui se sentent beaucoup plus puissantes pendant cet accouchement et après. Donc ça vient au moins confirmer cette chose-là. Elle parle d'une chose que j'adore, c'est les modifications du cerveau durant la grossesse et les 2 ans qui suivent, donc globalement la période des 1000 jours. Je vous ai remis l'étude qui correspond et un super livre sortira là-dessus d'ici fin 2022. Je vous en reparlerai. Globalement, ces modifications au niveau du cerveau, elles impliquent une diminution de la pensée rationnelle et une augmentation de la sensibilité aux émotions, au niveau vraiment du cœur, de pouvoir donner, etc. Donc, de se dévouer. Donc, c'est super intéressant et c'est vraiment. Pour le coup, scientifique prouvé, enfin sous IRM, etc., ça a été vu qu'il y a une diminution d'un des lobes cérébraux au profit d'un autre lobe cérébral, quoi. Elle pose une question qui me fait peur personnellement, c'est est-ce qu'il restera un jour des humains naturels? Alors, je ne savais pas, mais on en est au point où, à l'heure actuelle, lors des FIV aux USA, on peut choisir le sexe de l'enfant sur des blastocytes, donc des embryons de 5 jours. On arrive à choisir le choix du sexe. On arrive à avoir le choix du sexe. Mais au-delà de ça, à l'heure actuelle, on est quand même dans une société régie par les OGM, les hormones de croissance, les antibiotiques, les pesticides, les fongicides, etc. Même les salles de naissance sont aseptisées. Aseptisées, ça veut dire qu'on désinfecte. Il faut bien se rappeler que ce qui est le plus sensible au désinfectant, c'est les bactéries faibles. C'est pas les méchantes. Méchantes, elles restent. C'est le concept du staphylocoque doré, dont tout le monde, je pense, a entendu parler en termes d'infection nosocomiale. Et globalement, pour ça, on a une démarche qui est assez palliative, qui crée une dépendance à la médecine, puisqu'on réagit en créant un nouveau produit pour protéger du produit qu'on avait créé avant. Elle insiste aussi sur une autre notion, c'est le fait que le congé maternité est beaucoup trop court. Une femme enceinte ne fait jamais à rien, puisqu'elle permet à un nouvel être de se créer. Ça prend déjà du temps, ça lui demande beaucoup, beaucoup d'énergie, et que ce serait bien qu'elle puisse se reposer après avoir donné autant d'énergie. Et qu'elle puisse se reposer pendant qu'elle en donne aussi, donc que le congé soit allongé avant la naissance, mais également après. Ce auquel on ne pense pas forcément, souvent on pense à rallonger l'après, mais en fait rallonger l'avant, ce serait bien aussi. Une personne qui attend un enfant, elle souhaite pour cet enfant le meilleur des mondes, un monde mais idéal, un monde qui vit en paix, en harmonie, avec une justice efficace, mais en même temps logique, où tout le monde s'aime, etc. Un monde de bisounours. Résumons ça. Malheureusement, bah, c'est pas le cas. Mais par contre, dans ce monde, il y aurait aussi au même titre que dans les mythes, les femmes enceintes seraient choyées au même titre que les déesses, puisqu'elles sont preuves de fertilité, etc. Machin bazar. Dans un monde idéal, il y aurait aussi le soutien inconditionnel de leur entourage, et ce serait beaucoup plus doux de traverser et la grossesse et le postpartum. Mais en fait, tout ça ne tient qu'à nous. Et en plusieurs générations, on peut s'y atteler. Donc, on s'y colle, les gens. Et enfin, une notion que j'ai extraite, que j'ai trouvée géniale, et que personnellement, j'avais oublié, c'est que dans l'allaitement, il y a aussi des cellules souches dans le lait maternel. En plus de tout le reste, hein, les anticorps, les bactéries, la nutrition parfaite, adaptée pour le nouveau-né et tout. Bref, il y a aussi des cellules souches qui vont permettre d'aller réparer toute la petite bobologie qui a pu avoir lieu et qui peut avoir lieu au quotidien pendant l'accouchement et ensuite, tant que l'allaitement en tout cas est en cours. Cette semaine, j'ai choisi pour vous un extrait qui s'intitule Immunité, le microbe n'est rien, le terrain est tout, de Claude Bernard. Le fonctionnement et les mécanismes de notre système immunitaire sont encore aujourd'hui très mal connus. Certaines découvertes des 20 dernières années, notamment sur le microbiote intestinal ou flore intestinale, sont venues bousculer ce que nous prenions pour acquis. Croire encore que notre immunité ne se résume qu'à notre capacité à produire des anticorps est simplement faux. C'est évidemment beaucoup plus complexe. À l'âge adulte, Un bon système immunitaire dépend d'une alimentation saine et équilibrée, d'un sommeil réparateur, de facteurs environnants, tels la pollution électromagnétique, l'air respiré, ou encore du stress, qu'il soit lié à notre travail ou relations que nous entretenons les uns avec les autres. Alain Sauri, dans son livre Un enfant à naître de nous, écrit: Nous le répétons, le meilleur équilibre contre toute agression est surtout un bon équilibre physique, psychique et spirituel, tout à fait irremplaçable. Pour le docteur Alain Perrier, l'immunologie actuelle travaille sur un corps sans esprit. Il interroge avec pertinence l'immunologie en écartant d'un revers de la main le psychisme et en lui ôtant ainsi toute intervention dans les rouages de la biologie du système immunitaire, travaille-t-elle encore sur l'homme? En refusant la notion de biopsychisme comme elle l'a fait depuis un siècle, ne fait-elle pas de nous des handicapés de l'esprit? Un corps humain a-t-il du sens sans le psychisme qui l'anime, lui fait ressentir la vie et lui permet de s'adapter en permanence, y compris sur le plan immunitaire grâce à l'hygiène inventée par l'esprit? Pour le bébé, et par conséquent pour le futur adulte, les conditions de naissance sont cruciales quant à la constitution de bases immunitaires solides. L'environnement bactériologique lors de l'accouchement y joue un rôle prépondérant. Comme nous l'apprend Michel Audan, l'avenir de la flore intestinale dépend de la nature des germes qui seront les premiers à occuper le territoire. Le nouveau-né a besoin d'être contaminé au plus vite par les microbes satellites de la mère, c'est-à-dire les microbes domestiques. Ainsi sera-t-il mieux protégé contre l'agression des microbes plus dangereux. Dans cette optique, il semble cohérent de se demander si nous n'aurions pas tout à gagner et à économiser, à redoubler d'efforts pour favoriser les naissances par voie basse à domicile. Avec l'accompagnement nécessaire adéquat, et avec l'effort initiatique préconisé par Pierre-Yves Albrecht, cité plus haut, qui consiste à rendre active la transformation de l'être pour la mère qui donne naissance. Dans la même veine, l'allaitement, autre facteur clé de la constitution d'une solide immunité, devrait être encouragé et soutenu par tous. Alors voilà, on va se quitter. Il est temps de vous présenter les points positifs et négatifs de ce livre. Déjà, il se lit hyper vite, c'est 170 pages, ça va très très vite à lire. J'ai apprécié le fait qu'elle ait séparé les parties scientifiques et spirituelles. Donc la partie 2, c'est la partie vraiment scientifique, la partie 3, plus plutôt la partie spirituelle avec notamment les exercices pratiques, dont je ne vous parle pas dans le podcast parce que c'est un petit peu compliqué de vous décrire des exercices pratiques à l'oral. Les photos sont magnifiques, les photos sont juste splendides, elles sont noires et blanches, c'est des photos avec des angles rarement vus, et j'ai vraiment apprécié ces photos. Et en petit point négatif, j'ai trouvé que ça manquait un peu de sources, donc je vous ai rajouté quelques études. C'était Aurore Lebecq sur Doula Lire. Je vous ai présenté Enfanter en conscience, la dimension initiatique de l'accouchement de Aurélie Painot aux éditions Mama Édition. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à le noter, quelle que soit la plateforme. Ça le fera connaître, ça ne peut que l'aider. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ou en message privé sur Instagram les livres que vous aimeriez que je synthétise à l'avenir. À mercredi prochain!